VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct du studio 9 de VOA Afrique. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition. Il est 18h30 en temps universel, 14h30 ici à Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du mercredi 20 septembre 2017 et voici le sommaire. Le Kenyan, le feuilleton, les suites. La Cour suprême blâme la commission électorale pour sa gestion de l'élection présidentielle invalidée du 8 août. En République démocratique du Congo, au moins deux personnes ont péri dans une inondation dans les deux villages dans l'est du pays. Au Togo, les paysans du parti au pouvoir et ceux de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté après l'annonce d'un prochain référendum. À Mexico, les secouristes s'activent pour tenter de retrouver des survivants du séisme de mardi qui a fait plus de 200 morts. Suite de l'Assemblée générale au siège de l'ONU à New York, ça se poursuit. Retrouvez également Nicolas Pineau pour votre page sport et Pascal Serra pour l'actualité économique juste après le journal. La Cour suprême kényane a blâmé la commission électorale pour sa gestion de l'élection présidentielle invalidée du 8 août, lui reprochant d'avoir proclamé les résultats sur la base de documents douteux. Nathalie Barge.
La vice-présidente de la Cour suprême, Philomena Mwilu, a décrit des révélations perturbantes, voire saisissantes, sur la manière dont la commission a mené les élections. Les juges ont notamment reproché à la commission électorale d'avoir ignoré l'ordre de la Cour réclamant l'accès à ses serveurs pour vérifier les allégations de piratage informatique. La commission avait l'opportunité de présenter devant la Cour des preuves pour discréditer les affirmations du plaignant. L'opposant Raila Odinga a déclaré la juge, ajoutant que la Cour suprême se trouvait dans l'obligation de conclure que le système informatique a été infiltré et compromis et que l'élection présidentielle de 2017 n'était ni transparente ni vérifiable. Ces conclusions accablantes renforcent les doutes sur la capacité de la commission électorale à organiser le nouveau scrutin prévu le 17 octobre. L'opposition a menacé de boycotter ce scrutin si les principaux responsables de la commission ne démissionnaient pas.
12 personnes sont mortes et 92 autres portées disparues après l'inondation de deux villages dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un bilan provisoire. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
C'est dans l'après-midi de mardi que la pluie a commencé, obligeant ceux qui revenaient des champs à s'abriter dans des maisons près de la rivière de Biamboué. Ils ont été surpris par l'inondation, a témoigné Joseph Ndabita, habitant de Biamboué, appellation du village qui porte le nom de la rivière. Les victimes sont, en majorité, des agriculteurs de Biamboué et de Matanda, dont les champs bordent la rivière. Les eaux sont venues des montagnes, selon le député de Massissi, Safari Ayobangira, qui affirme que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. En août, au moins une centaine de personnes sont mortes suite à un glissement de terrain après de fortes pluies dans la province de l'Ituri. En mai 2010, une coulée de boue a traversé le village de Kibiriga dans l'est du pays, faisant 19 morts et 27 disparus.
Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement américain se dit consterné par les violences ayant occasionné la mort de plus de 30 Burundais et d'un militaire congolais à Kamanyola dans l'est du pays le 15 septembre dernier. Dans un communiqué, le département d'État appelle le gouvernement de Kinshasa, le haut commissariat de l'ONU aux réfugiés et les forces onusiennes à œuvrer et à atténuer les tensions entre les ressortissants burundais et la population locale, ainsi que les forces congolaises, et à éviter le recours à une force excessive. L'Union européenne appelle, elle aussi, l'armée congolaise à ne pas recourir à la force de façon disproportionnée en réaction à ces violences au sud Kivu. Le drame est survenu vendredi lorsque les forces armées congolaises ont tenté de disperser une manifestation de réfugiés burundais, mais ont été débordées et ont ouvert le feu. Les autorités congolaises ont annoncé avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces violences. Le président centrafricain a demandé hier un renforcement substantiel de la MINUSCA, la force de maintien de paix de l'ONU. C'est la force capable d'assurer la sécurité dans le pays, a déclaré le président Touadéra, qui a appelé la communauté internationale à ne pas oublier la République centrafricaine. Le comité de protection des journalistes, ONG, estime que la législation antiterroriste au Cameroun est utilisée pour faire taire la presse critique. Cette loi a été adoptée et promulguée en 2014 pour combattre Boko Haram, l'ONG américaine a affirmé qu'elle vise les journalistes qui enquêtent sur le groupe ou sur les troupes civiles qui sévissent dans les régions anglophones du Cameroun. Le CPJ cite notamment le cas du correspondant de langue Haoussa de RFI, Ahmed Abba, arrêté en 2015 et condamné à 10 ans de prison pour blanchiment d'actes de terrorisme. Au lendemain de l'adoption du projet de loi sur la modification de la Constitution, ouvrant la voie à un référendum au Togo, des partisans du parti au pouvoir et ceux de l'opposition ont manifesté dans le pays. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kailoson.
Ils étaient des milliers de Togolais à battre le pavé ce mercredi à Lomé et dans certaines villes à l'intérieur du pays. L'Union pour la République Unie, le parti au pouvoir, a marché pour la paix, mais ceci c'était une marche vers le référendum. Pour Yobate Kolani Bakali, député UNIR, si le référendum ne passait pas, c'est la constitution en vigueur actuellement qui ne limite pas le mandat présidentiel qui continuera de régir le pays. Pour l'opposition, pas question d'aller au référendum. Les conditions n'y sont pas, a fait savoir Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Les ministres en poste et les présidents des institutions ont brillé par leur absence, contrairement à la manifestation de UNIR du 29 août dernier. Du côté de l'opposition, le grand absent est Tipi Achadam qui n'a pas marché aux côtés de ses militants. À Mango et à Bafilo, respectivement à 476 km et 387 km de Lomé, des incidents ont émaillé les manifestations de l'opposition. À Mango, le siège du parti au pouvoir a été incendié. Kailasan, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Mexico, les secouristes s'activent pour tenter de retrouver des survivants du séisme de mardi qui a fait plus de 200 morts dans le centre du Mexique. Les précisions de Dilitico.
Le bilan provisoire est de 217 morts, dont 86 dans la capitale mexicaine, a annoncé Luis Felipe Puente, directeur de la protection civile mexicaine, sur son compte Twitter. Au moins 50 immeubles se sont effondrés à Mexico, une ville de plus de 20 millions d'habitants. Une école de la capitale mexicaine s'est partiellement écroulée, faisant au moins 26 morts, dont 21 élèves âgés de 7 à 13 ans et 5 adultes. Les secouristes continuent les recherches de survivants avec l'aide de parents. Toutes les écoles de Mexico ont été évacuées puis fermées. Le président Enrique Peña Nieto a par ailleurs ordonné l'évacuation des hôpitaux endommagés et le transfert des patients. Le Mexique est l'un des pays du monde où l'activité sismique est la plus forte en raison de sa situation géographique à la jonction de 5 plaques tectoniques. Le séisme de mardi est survenu 32 ans, jour pour jour, après le grand tremblement de terre de 1985 qui avait fait plus de 10 000 morts, 30 000 selon certaines estimations, un véritable traumatisme national au Mexique.
L'ouragan Maria, qui a fait au moins 2 morts dans les îles antillaises mardi, s'est abattu dans la nuit sur les îles Vierges américaines avant de toucher Porto Rico avec des vents de 240 km/h. Le gouverneur de Porto Rico a prévenu qu'il sera le plus dévastateur de l'histoire de l'île, déjà frappée par Irma il y a 10 jours. Environ 60% du réseau d'électricité est hors service à Porto Rico et cela pourrait s'aggraver et il y a des risques d'inondations et de fortes pluies. À l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, le président iranien a répondu aujourd'hui en termes sévères aux déclarations du président américain Donald Trump hier sur l'accord nucléaire conclu contre l'Iran et 6 puissances mondiales dans les États-Unis, dont les États-Unis. Gabi Dorsil.
L'Iran respecte l'accord nucléaire de 2015, mais réagira avec détermination en cas de rejet de ce document par le gouvernement de Donald Trump. Avertissement lancé ce mercredi par le président iranien Hassan Rouhani devant l'ONU. Il a affirmé que Téhéran ne tolère les menaces de quiconque et n'a pas été impressionné par les plaintes de Trump. La destruction de l'accord nucléaire, les propres termes de M. Rouhani, par les nouveaux arrivants au monde de la politique, n'empêchera jamais le progrès et l'avancement de l'Iran, a ajouté le dirigeant iranien. Des analystes pensent que la Corée du Nord suit de près le bras de fer Washington-Téhéran pour voir quel sort lui serait réservé dans l'éventualité d'un accord avec la communauté internationale. Côté africain, la journée a été marquée entre autres par la prestation du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui a rappelé l'importance du continent dans la lutte mondiale contre le terrorisme.
Ces succès importants resteront vains et la menace terroriste toujours préoccupante. Si l'Afrique continue d'être le ventre mou de la lutte contre le terrorisme mondial.
Alassane Ouattara. Également au podium ce mercredi, Paul Kagame du Rwanda.
Notre monde est confronté à des défis difficiles, mais pas davantage que par le passé. En œuvrant de concert, dans un esprit constructif, nous pouvons garantir à nos enfants l'avenir qu'ils méritent.
À travers une interprète, le président rwandais a énuméré les défis confrontés par l'ONU, mais non sans une note d'optimisme. Suivez tous les débats de l'Assemblée générale sur notre site voafrique.com.
Une cinquantaine de pays, Brésil en tête, ont lancé mercredi à l'ONU la signature d'un traité bannissant l'arme atomique malgré le boycott des puissances nucléaires qui invoque la menace nord-coréenne pour dénoncer la naïveté du texte. C'est tout pour les informations aujourd'hui. On passe à la Minute Éco présentée par Pascal Serra.
Le Togo est devenu l'un des plus importants clients du Nigeria avec 999 000 barils importés en avril et 6,7 millions de barils achetés en mai, selon un rapport retraçant les exportations nigérianes de pétrole entre janvier et mai 2017. Pour le Togo, cette hausse des importations s'explique par l'importance de plus en plus marquée du pays comme point de transit sous-régional. Au Ghana, le ministre du Développement des entreprises, Mohamed Awal, a révélé un investissement à hauteur de 100 millions de dollars pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Il a exhorté les jeunes entrepreneurs à identifier de nouveaux secteurs, des filières et des opportunités d'affaires plus innovantes. La Banque mondiale a approuvé un prêt de 200 millions de dollars de l'Association internationale de développement en faveur du Kenya. Ce soutien financier est essentiellement destiné à l'amélioration de l'apprentissage dans les écoles primaires et secondaires kenyanes. 1,2 million de bénéficiaires sont concernés. La banque Société Générale a présenté une nouvelle application mobile bancaire appelée Yop, destinée au marché africain, offrant divers services de paiement et de transfert d'argent sans compte bancaire. Cette application a déjà été déployée en Côte d'Ivoire et au Sénégal et doit être lancée d'ici la fin de l'année au Ghana, au Cameroun, au Burkina Faso et au Togo, avant d'être étendue à tout le réseau Société Générale sur le continent africain.
Place à présent au sport avec Nicolas Pignot. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
Aliou Cissé dévoilera sa liste pour les éliminatoires au Mondial 2018.
Et oui, le sélectionneur du Sénégal qui a retenu 26 joueurs pour la rencontre face au Cap-Vert le 7 octobre lors des éliminatoires du Mondial 2018. Aliou Cissé qui opte pour le changement dans la continuité sans bouleverser sa composition d'équipe. Il a convoqué 3 joueurs pour la première fois en vue de cette rencontre importante. Le gardien Alfred Gomis, mais aussi et surtout le défenseur latéral Youssouf Sabali et l'attaquant Mbaye Niang. On note en parallèle les retours de Diafra Sakho et d'Adama Mbeng. On rappelle qu'avant cette 5e journée, le Sénégal occupe la 3e place du groupe D avec 5 points derrière le Cap-Vert et le Burkina Faso.
Aucun joueur africain ne figure parmi les 55 nommés pour faire partie de l'équipe de l'année 2017.
Oui, le syndicat international des joueurs, FIFA Pro World 11, a dévoilé une liste qui compte 13 éléments du Real Madrid, un record pour un seul club, mais vous l'avez dit, aucun joueur africain dans cette liste, qui compte également le gardien de la Juventus de Turin, Gianluigi Buffon, mais également les attaquants Gareth Bale, Karim Benzema, Paolo Dybala ou encore Antoine Griezmann.
Ronaldo revient sur les pelouses espagnoles.
Fin de suspension pour CR7 qui va pouvoir de nouveau fouler la pelouse de Santiago Bernabéu en Liga à l'occasion ce soir de la 5e journée contre le Betis Séville. Le Portugais quadruple ballon d'or et 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions est la pièce maîtresse des Madrilènes. Zinedine Zidane espère que le Portugais rééditera sa performance de la saison passée où CR7 avait inscrit, tenez-vous bien, 25 buts en 29 matchs.
Barcelone est en forme malgré cette absence.
Sans surprise, Barcelone a battu Eibar hier soir au Camp Nou 6-1. Le club catalan a pu compter sur un grand Lionel Messi, auteur d'un quadruplé. Le Barça qui a signé une 5e victoire en 5 matchs.
On joue aussi en Italie.
Le choc Lazio-Rome contre Naples ou encore Juventus-Turin-Fiorentina. Après 4 victoires d'affilée hier, l'Inter de Milan a concédé le match nul, un but partout à Bologne. L'Inter qui occupe pour le moment la tête du classement avant les matchs de ce soir.
Merci beaucoup Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou avec vous pour cette deuxième partie d'émission. On passe au dossier du jour et on commence avec la 72e Assemblée Générale. Tous les yeux sont rivés cette semaine sur la ville de New York qui accueille comme chaque année l'Assemblée Générale des Nations Unies au siège de l'organisation. L'impasse politique en RD Congo, les violences ethniques en Centrafrique, le terrorisme au Sahel, mais aussi les tensions avec la Corée du Nord et la réforme de l'ONU elle-même sont parmi les sujets qui retiennent l'attention. Pour éclairage sur le discours d'hier du président Donald Trump, Jacques Aristide a invité sur son plateau à New York Jean-Victor Colo, un ancien porte-parole de l'Assemblée générale de l'ONU.
Écoutez, ayant été porte-parole de cette auguste maison en 2009, en 2008, mais aussi en 2007, je dois dire que ce discours était très important parce que c'est le discours du président du pays hôte. Il y avait aussi deux autres discours de personnalités qui s'exprimaient pour la première fois en leur qualité à l'Assemblée générale, le secrétaire général Guterres et le président Macron par exemple. Et donc c'est la question du multilatéralisme, c'est la question de la réforme des Nations Unies, mais c'est aussi la question de comment aboutir à la paix dans le monde. Je pense qu'il faut prendre en considération tous les avis. C'est cela même l'Assemblée générale, faire que tout le monde vienne participer et donne son point de vue.
Justement, quant au patron de l'ONU, Antonio Guterres, alors il a invité les chefs d'État et de gouvernement à faire preuve de responsabilité pour éviter tout conflit armé. Alors, quelle lecture faites-vous de sa première allocution à la tribune de l'ONU ?
Écoutez, l'ONU est pour la paix et l'ONU va faire tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour qu'il y ait, comme l'a dit le secrétaire général, une organisation encore plus efficace dans le maintien de la paix et surtout dans la prévention de la paix. Je me souviens déjà que la question de la paix était très importante, que ce soit sous la présidence de M. Tricky, de M. Deiss ou de M. Koutessa en 2015.
Côté africain, c'est le chef d'État guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, qui a ouvert le bal pour le continent. L'Afrique qui réclame deux sièges permanents et cinq non permanents au Conseil de sécurité. Alors Jean-Victor, vous êtes également du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique. Cela va-t-il devenir réalité un jour ?
Il faut l'espérer. Ce consensus veut simplement dire une chose. L'Afrique est l'essentiel du travail du Conseil de sécurité. L'Afrique voudrait être à la table, non pas seulement pour être à la réception des décisions, mais aussi pour participer à la conversation et pour être en réalité le leader dans ce qui est notre futur, notre avenir, et être aussi bien à la cuisine qu'à la salle à manger.
Jean-Victor Colo, un ancien porte-parole de l'Assemblée générale de l'ONU. Toujours au siège des Nations Unies, le président américain Donald Trump a prononcé hier son premier discours. Comment a-t-il été perçu sur le continent africain ? Yacouba Ouédraogo a joint Patrick Nzogwe Décalé, journaliste à Gabon Télévision, pour avoir quelques éléments de réponse.
Ce discours avait beaucoup plus les accents et la tonalité des discours de campagne électorale qui auraient pu intéresser certainement un auditoire américain, mais qui était en décalage par rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui était l'espace pacifique où l'on attend que les dirigeants du monde viennent nous décliner l'offre politique, l'offre économique, l'offre culturelle, les défis en termes de paix, en termes de sécurité, en termes de droits de l'homme, en termes de démocratie, en termes de valeur ajoutée à l'économie, en termes de pauvreté, parce que l'Afrique, vous le savez, nous Africains, nous sommes un continent extrêmement riche, mais qui avons des difficultés en matière de gouvernance, mais j'ai été un peu déçu par rapport à cette offre.
Il a simplement salué les efforts des États qui fournissent des casques bleus pour les missions de maintien de la paix sur le continent.
Il est évident que l'Afrique centrale est devenue aujourd'hui, du fait de la situation qui provoque notamment en République africaine, mais aussi en République démocratique du Congo, un terreau fertile à l'insécurité. Les missions qui ont été déployées notamment à RDC ont montré leurs limites. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent que les États-Unis, en tant que première puissance économique du monde, interviennent dans un sens qui permet effectivement de s'inscrire dans la volonté des peuples africains de contribuer à éteindre ces foyers de tension, de règlement des questions de pauvreté, de misère sur le continent.
Il a aussi dit, défendez vos peuples d'abord et après on pourra coopérer pour la prospérité dans le monde.
C'est une vision qui me paraît plus ou moins passéiste par rapport aux enjeux du moment, des enjeux qui requièrent notamment des grandes puissances comme les États-Unis, plus de lucidité dans l'approche des problèmes globaux auxquels tous les États font face.
Patrick Nzoukwe Décalé, journaliste à Gabon Télévision. Et sur le même discours du président Donald Trump, Yacouba Ouédraogo a joint Mamadou Souleymane, rédacteur en chef du journal Républicain au Niger.
J'ai trouvé ce discours assez égocentrique, assez gênant lorsqu'on considère que Trump est l'initiateur de la réforme de l'ONU, qu'il vient dire au monde Amérique d'abord. À la différence du français comme Macron, qui a une vision un peu multilatérale de la chose, le discours de Trump n'est pas rassurant, surtout que d'aucuns lui prêtent l'intention de régler la facture américaine.
Il a dit « Défendez vos peuples d'abord et après on pourra coopérer pour la prospérité dans le monde ».
Tout le monde sait que a priori, on dit en diplomatie, pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais à la vérité, il ne l'a jamais caché d'abord avant d'être présent, que son pays fait assez en termes de budget, en termes de participation. Il a vraiment des idées préconçues, à savoir que c'est le même Trump candidat qui continue.
Il était aussi attendu sur des sujets africains, notamment les conflits qui minent le continent. Donald Trump a simplement félicité les États africains qui fournissent des contingents pour les missions de paix.
Moi, je suis du Niger. Une de nos attentes, c'est la force du G5 au Sahel. Et vous savez très bien que nous sommes bien placés pour comprendre que véritablement, Trump, on ne peut rien attendre de lui.
Mamadou Souleymane, rédacteur en chef du journal Républicain depuis Niamey.
Dans le dialogue des religions de ce mercredi, à partir de 19h, temps universel sur VOA Afrique, le droit désormais accordé aux Tunisiennes de se marier dans leur pays avec des non-musulmans. La présidence tunisienne a annoncé la semaine dernière l'annulation de toutes les circulaires ministérielles interdisant de telles unions. Qu'en est-il dans votre pays et que pensez-vous de cette situation? Laissez-nous vos commentaires et réactions sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Vous pouvez également suivre l'émission en direct sur voafrique.com.
Depuis le début de l'année, le franc congolais ne cesse de chuter par rapport au dollar. Résultat, certains corps de métier comme les médecins étaient récemment en grève à cause de la baisse de leur pouvoir d'achat. Le syndicat des médecins affirme que les salaires de ses membres ont perdu jusqu'à 50% de leur valeur. Comment cette chute du franc congolais affecte-t-elle les Congolais? Reportage à Kinshasa d'Abdourahmane Dia.
En tout cas, ça marche pas bien parce que là, on est vraiment en faillite.
La terrasse de Maman Keita est presque vide cet après-midi. Juste quelques clients, des habitués, nous dit-elle. Au bord de la faillite, elle n'y va pas par quatre chemins pour expliquer le marasme économique qui retient les clients.
La crise là de franc congolais avec les dollars, ça nous touche vraiment nous, les petits commerces.
Vous pouvez donner un exemple?
L'exemple que je donne, maintenant, là, avant on achetait un casier moyennant de 9 dollars quand le franc congolais avait le valeur. Et maintenant là on achète, si je mets le casier de petit à quartier, c'est à 24 000. Donc j'arrive déjà à 15 dollars. Et je ne sais pas vendre ça moins de 1 500. Mes clients sont obligés de me fuir. Il y a des clients habituels qui viennent aussi. Malheureusement pour moi, s'ils prennent à crédit, et je fais quoi à la fin du mois pour payer les loyers? Il n'y a pas vraiment de bénéfice. Cette crise-là nous a touchés, nous les petits commerçants.
À Gombe, le centre d'affaires de Kinshasa, les clients détenteurs de devises qui viennent chercher des francs congolais semblent se résigner.
Il y a des mois passés, c'était à 16 et maintenant ça fait 15,71, 15,60. Ce qui est comme obstacle, c'est que les taux, ça baisse. Les chances, ça baisse. Alors les prix au magasin, pour aller acheter au magasin, là, les prix, ça reste toujours les mêmes. C'est ça qui fait que ça nous dérange un peu.
Martin Bellé, le secrétaire général des cambistes, tente de nous expliquer le problème.
Et la crise, ça se voit à partir de la monnaie. Tu vois, le franc congolais est vraiment rare sur les marchés. Donc il y a ce qu'on appelle la déflation sur les marchés. Donc il n'y a pas vraiment l'inflation. Il y a moins de francs congolais par rapport aux devises étrangères. Vous verrez, il y a la hausse du dollar. C'est-à-dire, nous bénéficions aussi beaucoup. Parce que quelqu'un vient, il savait qu'on avait le taux de 1570. En arrivant, le taux a déjà augmenté. Donc c'est à partir de cela que nous avons un peu de bénéfices. Mais lorsqu'il y a chute il y a déflation, la rareté de la monnaie locale, dont nous perdons beaucoup.
Le gouverneur de la Banque centrale a récemment annoncé une série de mesures pour stabiliser la monnaie locale. En attendant, le pouvoir d'achat des populations suit la courbe descendante du franc congolais. Abdourahmane Dia, Kinshasa, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Tchad, une troisième mission conjointe gouvernement HCR a séjourné cette semaine à Bongor, chef-lieu de la région du Millau-Kébi-Est. Elle voulait réévaluer le nombre des réfugiés installés dans cette zone pour une éventuelle assistance. André Kodmajingar, pardon.
Ils sont plus de 2800 personnes à être placées dans les familles d'accueil des quatre localités de la région, notamment Guelendeng, Moulkou, Bongor et Pont-Carol. Ces personnes sont de nationalité camerounaise et nigériane fuyant les exactions de Boko Haram de 2015 et des centrafricains se mettant à l'abri suite à la guerre entre les Seleka et Antibalaka de 2014. Olivier Jean-Marc Ouyan, administrateur associé en charge de la gestion des données du HCR, parle de l'avantage de cette opération.
Ces données biométriques nous permettront de toujours faire des vérifications au niveau mondial et nous assurer que dans notre base de données, un réfugié n'est pas enregistré deux fois. Et une fois que cette étape est terminée, nous passons à la documentation de pouvoir faire valoir ses droits parce qu'à ce moment, on lui attribue la carte d'identité de réfugié qui est reconnue par l'État du Tchad et aussi l'attestation de réfugié qui comporte les photos de tous les membres du ménage. Et aussi, ça permet au HCR de pouvoir planifier, savoir combien de personnes on a et pouvoir aussi leur venir en aide.
Quelques réfugiés ont de la peine à retenir les larmes quand ils se mettent à expliquer les moments les plus difficiles qu'ils ont vécu dans leur pays respectif.
Je suis le délégué des réfugiés centrafricains. Je me suis séparé avec ma famille pour les retrouver ici. Je suis né à Bossangwa, ça c'est dans le village même de Bozizé. Ils ont opté pour éliminer tout ce qui est musulman. Mais leur propre cousin, il est tué. Moi j'ai perdu mon beau-frère. Je vous dis que mon frère, j'ai souffert. Repartir dès maintenant, moi qui vous parle, vraiment la maison est par terre. Et repartir pour habiter où je suis père de 16 enfants. Ils sont tous avec moi ici.
Je m'appelle Bana Tela. Je sors de Bama, Maïdougouri. Les problèmes de Boko Haram qui m'a amené ici, je suis marié. J'ai 5 enfants, j'ai perdu mon grand frère, mon petit frère. J'ai fait 3 ans ici. Dès que la paix revient, on va retourner chez nous là-bas.
Je m'appelle Samira Oumar Hissène. Je suis centrafricain. Nous sommes venus ici au Millau-Kébi-Est depuis 2015, mais vraiment nous souffrons. Nous ne sommes pas à l'aise ici au Tchad.
Madame le préfet du département de Mayo-Boné, Safia Wambi, représentante du gouverneur de la région du Millau-Kébi-Est, estime qu'à l'issue de cette opération, ces réfugiés doivent espérer une vie meilleure.
Aujourd'hui, je dois vraiment apprécier cette mission qui, depuis plusieurs écrits, a écouté le cri de l'administration et le cri de ceux qui sont en désarroi. Et espérons qu'après cette mission, ceux-là seront pris en charge quelque part par le HCR.
André Kodmajingar Ndiamena, VO Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tour universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnon, Aiden Koutoukou à la console, à la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à vous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.